nzamba
nzambira samirana
Le journal avec Jean-Baptiste Videha.
Merci de rester à l'écoute de la radio Nzamba. Nous sommes jeudi le 19 novembre 2020. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française. Théodomir Manrambouna est à la manette à la présentation de ce journal. Jean-Baptiste Bileha, d'abord les principaux titres. Un délai de 30 jours a été donné par le Premier ministre Alain Guillaume Bougnoni pour redresser la situation de l'ONATEL, une entreprise de l'État qui travaille actuellement à perte. Encore sans vie a été découvert le matin de ce jeudi au sud de la capitale économique, dans la vallée de la rivière Mouras, qui ont vu ce corps parler d'une personne qui aurait été tuée ailleurs. La coalition pour la restauration de l'accord d'Arusha, Sefola Arusha, s'inscrit en faux contre le récent discours du président Daichimie, appelant les jeunes de la Koulé à intensifier les patrouilles. Cela montre que ces jeunes se substituent au corps de défense et de sécurité. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Rebonsoir. Encore sans vie a été découvert le matin de ce jeudi dans la vallée de la rivière Mouha, mairie de Bujumbura. Ceux qui ont vu ce corps parlent d'une personne qui aurait été tuée ailleurs avant d'être jetée à cet endroit. C'est la police de la protection civile qui a évacué le corps sans vie après avoir interdit la prise des photos. L'un de ceux qui ont vu le corps sans vie témoigne.
Il n'y avait pas de traces du sang dans cette vallée. C'est quelqu'un qui a été tué ailleurs et jeté dans cette vallée d'Omura, juste sur le sentier Gasekebuye, Université du Burundi, appelé communément Campus IPA. La police de la protection civile qui était sur place a interdit aux gens présents de prendre des photos. Elle a aussi confisqué beaucoup de téléphones de marque Android. Mais cette personne n'était pas connue. C'était un homme. La police a regroupé des travailleurs domestiques du quartier proche appelé Gatoke pour les interroger. La destination de ce corps sans vie reste toujours inconnue.
Dans la zone Gihosha, mairie de Bujumbura, une femme a été tuée par son mari. Ce dernier a été retrouvé ce matin suspendu sur un arbre. Ce phénomène a été également constaté dans la province de Cibitoki et Kirundo. Même s'il n'existe pas des statistiques et des crimes liés aux violences conjugales au Burundi, la situation montre que les cas sont devenus nombreux dans le pays. Le sociologue Paul Mouzman explique que l'une des causes de ce phénomène est la dislocation de la société burundaise due à l'impunité des crimes. Professeur Paul Mouzman.
Bien entendu, ces phénomènes sont toujours liés aux violences conjugales. C'est-à-dire que dans ce type de situation, il y a, disons, une cause immédiate, c'est-à-dire au sein même du couple. Donc, ceci se trouve lié à des difficultés qui se trouvent directement reliées à la vie même du couple. Il peut y avoir, des mésententes pouvant entraîner à des crimes passionnels. Ça peut être des violences directement liées à un certain type de jalousie ou bien des difficultés, des incompréhensions directement liées à des difficultés d'entente sur la gestion du couple lui-même et de la famille. Donc, c'est-à-dire que pour chaque cas, évidemment, il s'agit d'étudier en profondeur des raisons qui ont poussé à ce type de crime. Il s'agit en fait de mener pour chaque cas une étude clinique, donc ce qui évidemment dans le cas du Burundi, ce genre de recherche systématique n'existe pas. Et il y a aussi et surtout le deuxième niveau de cause. C'est que la société burundaise dans le contexte actuel est une société en réalité qui est en dislocation, une société où des cas de tuerie se manifestent de manière assez fréquente, et aussi une situation où le crime n'est pas puni. L'impunité se trouve effectivement au centre des causes qui peuvent pousser à ces crimes, des crimes qui sont souvent commis sans l'intention de donner la mort.
Le récent discours du président Évariste Ndayishimiye lors du lancement de la semaine dédiée aux combattants, un message adressé aux jeunes de son parti d'intensifier les patrouilles, montre à suffisance que les Ibonakoulés se sont substitués aux forces de l'ordre. C'est le constat du porte-parole de Sefo Larusha. Il indique que c'est également un appel à l'extermination des opposants. Suivez Emmanuel Ndeleiman.
Tout le monde sait que le Burundi a une armée et le Burundi a une police, mais subitement, les travaux de ces corps de défense et de sécurité sont substitués par la force des Imbonerakure, de la milice. Et pourquoi? La signification est que nous savons très bien, nous avons des informations que les militaires qui vont dans les missions de maintien de la paix en Somalie, ça fait bientôt 6 à 8 mois qu'ils n'ont pas perçu leur salaire. Alors que l'Union européenne, qui est chargée de payer ces travaux, a versé l'argent sur les comptes du gouvernement du Burundi. Alors cet argent n'est jamais arrivé comme salaire à ces militaires. Maintenant, ils sont frustrés et le gouvernement voit ça, il constate que les militaires sont frustrés. Alors, comme ils ne sont pas à l'aise dans leur mission, ils ont préféré substituer ses corps par une milice, la milice du parti au pouvoir. Alors, quand ces gens, vous savez qu'ils ont été formés à Kiribaundes par les Interahamwe, ils ont appris à tuer, ils ne savent que ça, courir derrière les opposants, les opprimer, les arrêter, les emprisonner, et tous les malheurs qu'il faut infliger à ses opposants, ces Imbonerakure, ils ont appris à le faire. Alors, c'est leur mission pendant la nuit, c'est la chasse à l'homme.
Mesures de prévention de la COVID-19 dans un lieu public. Un lieu public est tout endroit où se rassemblent plusieurs personnes. Les écoles, les églises, les marchés, les salles de cérémonie, les internats, les camps militaires et j'en passe. Comment protéger les gens dans ces lieux publics? Encourager le lavage des mains régulier ainsi que le comportement positif lié à l'hygiène. Veiller à ce que les postes de lavage des mains soient accessibles et adaptés à tous, particulièrement aux enfants et aux personnes handicapées. Placer des flacons de solution hydroalcoolique dans ces lieux publics. Nettoyer et désinfecter régulièrement les lieux en accordant une attention particulière aux surfaces avec lesquelles de nombreuses personnes sont en contact, par exemple les rampes d'escalier, les tables, les chaises, les poignées de portes et de fenêtres et j'en passe. Installer partout des panneaux encourageant de bonnes pratiques d'hygiène.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agateka Kawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a donné un délai de 30 jours à l'Office national des télécommunications, Natel en sigle, de corriger les erreurs du passé qui font que cette entreprise de l'État travaille à perte. C'est du moins le contenu de son message adressé au personnel de l'ONATEL le matin de ce jeudi lors de la visite du Premier ministre à cette entreprise. Le ministre a insisté que les syndicalistes du personnel de cette entreprise doivent beaucoup aider pour la parfaite réalisation de ce programme, n'est-ce pas, bon fils Niyongere?
Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, au cours de sa visite à l'Office national de télécommunication ONATEL en sigle le matin de ce jeudi, il a demandé la mise en place d'une commission d'enquête pour établir les responsabilités de ceux qui font que cette entreprise étatique travaille à perte.
Il faut une mise en place rapide d'une commission d'enquête qui pourra établir des responsabilités des agents qui auraient causé des pertes à l'entreprise. Ceux qui seront pointés du doigt par le rapport, la loi est claire. Si nous allons recourir à la justice, nous n'hésiterons pas. Et si les réparations vont avoir lieu, personne ne pourra nous empêcher de l'exiger.
Le ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias, Madame Chantal Nijimbéré, a aussi rappelé que l'ONATEL a failli à sa mission première parce que depuis sa création, elle était une entreprise étatique commerciale.
Bien que l'ONATEL étant une entreprise commerciale, les chiffres d'affaires vont en régression d'une façon très étonnante. Les chiffres d'affaires en 2015 étaient de 10 603 273 261 francs burundais. L'année passée, en 2019, les chiffres d'affaires étaient de 5 603 150 016 francs burundais.
Le Premier ministre Alain Guillaume Mignoni a demandé à tout le personnel de l'ONATEL de travailler avec objectifs visés et les résultats à atteindre dans une période donnée.
C'est le dernier avertissement. Si vous ne le faites pas, rien n'empêchera que vous soyez renvoyé du service. Nous demandons à tout le personnel de l'ONATEL qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent travailler avec objectif et avec le devoir d'avoir des résultats à atteindre. Après un mois, après un trimestre, montrez vos réalisations et vos échecs. Parce que le gouvernement ne va pas continuer à gérer une entreprise qui ne produit pas. Il va la réformer ou la liquider parce qu'il ne peut pas continuer à cautionner ce genre de perte.
Pour que cet entretien avec le personnel de l'ONATEL ne soit pas comme une lettre morte, le Premier ministre a exigé le rapport provisoire des réalisations en délai 30 jours à partir de ce 19 novembre l'an 2020.
Votre syndicat a l'obligation de nous aider et de prévenir pour sauver ce qu'il y a à sauver. Il vous est demandé de présenter le rapport provisoire de ces réalisations en ayant 30 jours.
L'ONATEL étant la seconde entreprise étatique visitée par le Premier ministre depuis sa nomination. La première entreprise à avoir accueilli cette autorité étant la Régie des Eaux.
Le LICOM, Observatoire pour la lutte contre la corruption et les organisations économiques, a adressé une lettre ce mardi au secrétaire général de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour demander des enquêtes indépendantes sur un aéronef du type Antonov 72 et sur le trafic illégal des minerais dans la région des Grands Lacs. Pour Gabriel Oufili, président de LICOM, l'aéroport international Mercure d'Adaïe de Bujumbura, c'est une plaque tournante dans le trafic des minerais.
Des questions qui concernent le trafic illicite des minerais, mais également d'enquêter sur les moyens de transport de ces minerais. Parce que nous avons remarqué, avec des preuves à notre disposition, que les minerais de la sous-région sont exploités et vendus en violation flagrante des lois, d'abord au niveau national, mais ensuite au niveau des instruments régionaux qui ont été mis en place par la CIRGR. C'est la raison pour laquelle l'OLICOM a appelé ces minerais des minerais du sang, du simple fait que la plupart de ceux qui exploitent ces minerais, souvent, nous voyons des rapports qui confirment que certaines personnes les échangent avec les armes. Donc, pour nous, nous nous sommes posés au moins 18 questions. Bien évidemment, il y en a d'autres. Nous voulons avoir des réponses par rapport à ces questions que nous avons posées. C'est pour cette raison que nous avons demandé qu'il y ait une commission qui va enquêter sur le trafic illicite de ces minerais, mais bien évidemment avec les moyens de transport. Ici, nous avons vu des avions qui volent sans disposer des documents. Mais s'ils disposent des documents, ce sont des documents en quelque sorte que les pays ne parviennent pas à assumer officiellement. Voilà pourquoi l'OLICOM a demandé des institutions indépendantes qui puissent enquêter véritablement et donner une clarification aux citoyens de la sous-région, plus particulièrement aux citoyens burundais. Ici, par exemple, l'année 2019, il est clair que au moins à peu près 2000 kg d'or, c'est-à-dire 2 tonnes, ont été vendus au nom du Burundi. Mais si vous arrivez à dar au budget, c'est presque zéro, c'est moins de 1%. Alors, on peut se poser la question, d'où va tout ce montant qui provient de ces produits de l'or?
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir.